Cet après-midi, je reçois Mme Caroline Gagné du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Il est question de cet événement à la fois important et intriguant qui va se dérouler à l'aéroport de Portmeunier ce jeudi matin. Bonjour Mme Gagné, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors si je comprends bien Mme Gagné, c'est un exercice de sécurité important qui est organisé jeudi à l'aéroport.
C'est un exercice général, donc c'est avec un déploiement complet sur le terrain avec les participants dans une situation fictive, mais qui est toujours basée sur un scénario qui est possible pour un événement qui pourrait arriver à l'infrastructure à l'aéroport de Portmeunier, qui viendrait toucher vraiment non seulement notre personnel à l'aéroport, évidemment, mais également le ministère des Transports, bien évidemment, mais les gens, également les gens de la communauté. Donc, ce type d'exercice-là, avec déploiement complet, c'est une fois aux 4 ans. Et c'est en vertu de la réglementation de l'aviation canadienne, donc le règlement de l'aviation canadienne, où est-ce qu'une fois par 4 ans, on doit avoir un déploiement sur le terrain pour évaluer la résilience et la performance de nos plans de mesures d'urgence avec non seulement les pratiques à l'intérieur du ministère, mais également en partenariat avec tous les collaborateurs qui sont de près ou de loin là, partie prenante à l'événement. Donc, ce jeudi-ci, de 9h à midi, ce sera un déploiement complet sur le terrain avec une simulation fictive. C'est toujours la mise en scène initiale d'un écrasement ou en fait un accident d'aéronef ou un atterrissage d'urgence. Bref, une situation qui va venir déclencher un plan de mesures d'urgence et cet aléa-là est vraiment réglementé par Transport Canada. Suite à cet aléa-là, on pourrait rajouter d'autres procédures qui viendraient augmenter la coefficience là, d'intervention, pardon. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une alerte à la bombe, il pourrait y avoir une intrusion de piste. Bref, différents éléments qui viendraient faire une intrusion à la sécurité au niveau d'une zone aéroportuaire.
À l'intérieur de cet événement-là, qu'on simule donc un événement d'urgence, les intervenants, là, qui sont soit les pompiers ou encore les premiers répondants, est-ce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver sur place ou vraiment on simule au point où on arrive sur les lieux puis on n'a pas vraiment d'idée de ce qui va se dérouler?
Non, les gens ne le savent pas. Abstraction le fait qu'on sait qu'il y a un événement aéroportuaire, les intervenants de première ligne ne savent pas ce à quoi ils vont devoir faire face. Donc, quand je parle des partenaires qui sont vraiment très importants dans ce genre d'intervention-là, je parle également du personnel de l'aéroport qui ne savent pas non plus ce dont ils auront à avoir, à travailler et à affronter. Évidemment, avec les années, les gens savent à peu près où est-ce qu'ils vont avoir à intervenir. Notre personnel est formé en ce sens et on ne forme pas des super-héros, on forme des super préposés d'aéroport, chose qu'ils sont. Et ils sont vraiment habilités à intervenir entre différents types d'événements selon 14 procédures que le ministère a déterminées. Mais nos gens ne savent pas dans quelles conditions ils vont l'exécuter, avec quel type d'appareil ce sera fait, combien il y aura de victimes, est-ce qu'il va y avoir un incendie, est-ce qu'il va y avoir des intrusions de piste, va-t-il y avoir des décès ou uniquement des passagers qui sont un peu ébranlés, mais sans vraiment de blessures importantes, en tout cas visuellement ou à tout moins à la première estimation. Donc, c'est vraiment là, la découverte totale d'un événement là, comme il pourrait se vivre en temps réel. Là.
C'est très intéressant parce que j'allais vous demander, ça va ressembler à quoi sur le terrain, mais je comprends que vous ne l'expliquerez pas là, justement parce que les intervenants, que ce soit les premiers répondants, les pompiers, ne peuvent le savoir à l'avance, ils vont le trouver sur le terrain. Ça peut impliquer combien de personnes à peu près, ça? Parce que ça me semble quand même, je dirais, une opération assez majeure en termes d'effectifs
Ouais.
qui seront sur le terrain.
En fait, je vous dirais par les années passées et par expérience, là, ça peut regrouper peut-être de 40, des fois 30, 40, 50 personnes, tout dépendamment des effectifs qui seront en place au moment où est-ce qu'on fait l'exercice, évidemment. Donc, là-dessus, j'inclus les gens qui sont à distance, parce que si je pense notamment à Portmeunier, ben, on sait très bien que la Sûreté du Québec n'est pas sur place. La Sûreté du Québec est à Havre-Saint-Pierre, bien qu'ils ne participent pas physiquement à la mobilisation terrestre. Terrain. Ils sont tout de même présents dans ce que nous, on appelle un CCU, donc un centre de coordination d'urgence, qui sera ouvert à l'intérieur même de la cellule de crise du ministère des Transports. Alors, ces gens-là, moi, j'aime à les appeler là, des clouds. Je m'excuse de l'anglicisme, mais tous ces gens-là sont regroupés à l'intérieur d'une cellule de crise qui est coordonnée par des gestionnaires du ministère des Transports et à distance, ils vont venir intervenir pour prêter assistance au terrain. Donc, c'est une formule hybride, comme ça serait dans la réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir les premiers répondants qui vont être là sur place, mais il va également avoir des interventions au niveau du CI3S Côte-Nord qui va se faire à distance de par là, les quartiers généraux de chacun de ces organisations-là. Donc, physiquement, on peut y avoir entre 20, 30, 40 personnes, c'est selon, dépendant. Et c'est selon le nombre de figurants que j'aurai également, dont je vais disposer.
Ouais.
Parce que parfois, je peux avoir un seul figurant et dans d'autres exercices, là, je ne veux pas nommer personne ni pointer aucune infrastructure, mais dans d'autres exercices, j'ai déjà eu presque, en tout cas, pas la moitié du village, mais presque, là, 30, 35 personnes qui voulaient participer. Ou à la dernière minute, je vais leur donner des rôles qui ne sont peut-être pas nécessairement tous écrits d'avance, mais je vais improviser, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui sont dans des témoins de la scène, des gens qui sont sur le bord de la rue qui prennent une marche, des gens qui sont à l'intérieur de l'arrêt aux gares, qui regardent passer, venir atterrir et décoller les avions. Donc, il y a beaucoup de mise au point à la dernière minute qui se fait avec les gens avec lesquels j'ai à travailler, évidemment.
Mais on comprend qu'il pourrait y avoir des blessés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des gens de l'île qui vont jouer le rôle d'un blessé ou de quelqu'un qui a été impliqué dans l'incident, c'est ça?
Absolument, c'est vraiment codé selon ce que les services de paramédic nous ont instruit avec les années, là. Donc, on a des patients qui sont codés jaune, noir, rouge et blanc également, là, selon le type d'évaluation de blessure qu'ils ont. Et suite à ça, donc, comme dans la vraie vie, dans un vrai événement, et suite à ça, ben, il y a un système d'alerte qui va partir au niveau médical en disant, ben, écoutez, actuellement, on a trois victimes qui sont codées rouges, donc rouge correspond à tel niveau d'intervention. On a tant de victimes qui sont codées jaunes qui correspond à tel niveau d'intervention. Et tout ça se fait dans une zone de triage, comme dans la réalité, ça se ferait. C'est-à-dire, suite à un événement, il y aurait les services incendie qui prendraient le commandement des opérations après que notre personnel d'aéroport aurait donné le commandement des opérations, parce que quand l'événement arriverait, on s'entend que c'est notre personnel d'aéroport qui sont sur les lieux, qui ont vraiment les pleins pouvoirs et qui représentent l'exploitant de l'aéroport, donc soit le ministère des Transports. Donc, c'est un préposé d'aéroport ou le gérant qui aurait la charge d'avoir le commandement des opérations tant que le service incendie n'est pas sur place. À partir de ce moment-là, comme dans la réalité, service incendie va déterminer une zone de triage, une zone chaude, une zone tiède, une zone froide, et là, l'évacuation va se faire là, comme ça se ferait en temps réel. Là.
Madame Gagné, question qui me vient à l'esprit. Le fait qu'on n'ait pas d'hôpital, qu'on n'ait pas la Sûreté du Québec à Lille non plus, il manque des intervenants sur le terrain. Est-ce que ça complique la tâche s'il doit y avoir une intervention d'urgence comme celle que vous allez pratiquer jeudi?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est également, je vous dirais, le cheval d'arme et de bataille dans les exercices du ministère des Transports et dans la raison d'être du réseau aéroportuaire, notamment situé au sud du 55e parallèle, c'est d'effectuer le transfert et la mobilisation des biens et des personnes malgré les aléas que le territoire pourrait présenter. Je pense, là, on parle de Port-Munier où est-ce qu'on est isolé et enclavé. Mais on a la même chose dans la région de Québec avec l'infrastructure de l'île aux grues. Donc, sont isolés et également enclavés. On parle de la basse Côte-Nord où est-ce qu'on a quatre infrastructures bon, en fait, il n'y a pas de route qui est reliée. Donc, il y a une très, très grande résilience qui s'effectue avec le partenariat partagé. Là, je le dis tout le temps, puis c'est mon cheval de bataille. Là. Je dis toujours qu'avoir une infrastructure aéroportuaire dans sa région, dans sa municipalité, c'est un privilège, un grand privilège. Mais ce privilège-là vient avec des obligations. L'obligation appartient au ministère des Transports, évidemment, puisqu'on on en est l'exploitant, mais moi, j'aime bien dire que c'est une responsabilité qui est partagée parce qu'elle dessert les gens de la municipalité. Je vous dirais qu'avec les années, je ne peux qu'être très admirative devant toute cette résilience-là parce que les gens s'approprient ce genre d'événement-là parce que c'est leur mobilité qui est assurée. Donc, les gens prennent la chose très au sérieux. Les gens sont très engagés, très impliqués dans ce genre d'intervention-là du ministère des Transports. Donc, oui.
On peut comprendre que c'est fait dans le fond pour être le plus efficace possible si on a à rencontrer un incident majeur, comme par exemple l'écrasement d'un avion ou toute autre chose que vous avez décrit tantôt.
Oui.
C'est dans l'intérêt général de faire ces exercices-là de manière à ce qu'on s'assure d'avoir une réponse qui est la plus adéquate et la plus à jour et la plus efficace possible.
En fait, c'est vraiment la base, c'est le partenariat, carrément le partenariat, autant avec notre personnel d'aéroport que pour les gens, les partenaires terrains, qu'ils soient à Portmeunier ou qu'ils soient à l'extérieur de Portmeunier, à Québec, dans les grands centres ou un peu partout là, en région. Là. Donc, on a des partenaires qui sont vraiment de nature très diversifiée. Si je pense, je fais le parallèle un peu avec la base Côte-Nord, où est-ce que la Sûreté du Québec n'est pas présente, mais on a la présence des Rangers. Ben, les Rangers, ils sont basés à Saint-Jean-de-Richelieu. Donc, ils ne sont pas physiquement sur la base Côte. Ils ne seraient pas non plus en Mangani, puisqu'il n'y en a pas à Portmeunier. Cependant, il y a une connaissance du terrain, c'est par le biais de ces, notamment les exercices qu'on effectue pour pouvoir aller chercher cette connaissance-là du terrain. Parce que moi, je me plais à dire très souvent que dans le plan des mesures d'urgence qui existe, ben, naturellement, j'en suis la porte-parole, j'en suis la responsable. Je connais bien le plan des mesures d'urgence, mais il y a une section du plan de mesures d'urgence que je ne connaîtrai jamais parfaitement, et c'est la section du territoire d'intervention. Parce que j'ai beau connaître le territoire, ce n'est pas chez moi. Donc, si les gens ne nous parlent pas, si les gens ne nous expliquent pas comment ça fonctionne, comment il y a une cohésion à travers tout le monde et qui fait quoi et de quelle façon les gens vont s'imbriquer dans leur rôle et responsabilité conjointe, ben nous, on ne pourra pas tirer profit au maximum de ces connaissances-là. Donc, c'est important de bien, bien connaître le territoire et pour ça, ben, il faut s'engager, il faut aller vers les gens, il faut poser des questions, il faut poser les bonnes questions, il faut être à l'écoute aussi de ce qu'ils nous disent et apprendre et puis le mettre à pratique. Et dans un exercice, moi, je dis toujours qu'il y a un exercice qui est parfait. Ce n'est pas un bon exercice, parce que ça ne peut pas être parfait. On doit trouver essentiellement une façon de s'améliorer exercice après exercice. Le territoire évolue, les gens évoluent, et on reprendrait la même situation 20, 30, 15 fois et elle ne serait pas interprétée de la même façon 20, 30, 15 fois pour différents facteurs, dont notamment facteurs humains.
Oui, c'est certain que l'humain répond d'une manière ou d'une autre différente d'un autre humain dans une circonstance
Ouais.
qui est alarmante. Ça, c'est évident.
Et également, selon la disponibilité des effectifs, et je dois le mentionner parce que parfois, ben, on peut avoir dans une organisation très précise quatre ressources de disponibles et la journée d'après, on peut en avoir que deux. Et la journée d'après, on peut en avoir une cohorte de 10 ou de 12. Donc, on doit voir, particulièrement en région, là, de quelle façon est-ce qu'on peut coordonner. Et si le plan A ne fonctionne pas, quel sera le plan B? Et si le plan B ne fonctionne pas, quel sera le plan C? Et puis, parfois, c'est un amalgame des trois plans. Donc, pour pouvoir répondre à l'urgence.
Oui, vous feriez une bonne insulaire. Vous êtes déjà dans les plans B et les plans C,
Oui.
ce qui est régulier quand vous parlez de résilience. Là, le plan A, il fonctionne rarement à l'île. On est souvent dans le B ou dans le C, effectivement.
On est régulièrement dans le B et dans le C, là. Oui, je dois
Ouais.
l'admettre. Ou un amalgame, j'aime bien, je le répète, un amalgame des trois.
Alors, vous comptez sur l'espoir, c'est qu'il y ait le plus de gens possible de l'île qui se manifestent. Je donnerai les coordonnées tout à l'heure, mais qui se manifestent à titre de bénévoles pour faire partie de cette opération-là.
Tout à fait. Et puis, comme je me plais à le dire, s'il y a beaucoup de gens et vraiment beaucoup d'intéressés, chose que j'espère énormément, ben, tous n'auront peut-être pas un rôle vraiment écrit avec une mise en scène très précise, mais je prends un grand soin d'attribuer une fonction à tous ceux et chacun qui auront eu l'opportunité, le désir et se sont manifestés pour pouvoir participer à l'exercice. Je ne laisse jamais personne en plan. C'est important. On doit se sentir impliqué dans un événement pour pouvoir prendre conscience de sa grandeur, de son importance également. Et c'est ce que je souhaite pouvoir faire par le biais de la prochaine rencontre là, qui aura lieu jeudi. J'arrive toujours à l'avance un petit peu, une journée, 2 journées avant, et je vais toujours rencontrer les partenaires. Je vais me présenter. Je vais apporter des documents, je vais discuter avec les gens parce que dans l'événement en soi, bien, on est dans l'urgence, hein, donc on n'a pas vraiment le temps de discuter. Par contre, les conversations en aval et en amont, bien, c'est là où est-ce que c'est, pour moi en tout cas, pour le ministère, c'est très enrichissant.
Ben, c'est respectueux aussi, votre démarche. On sent ce désir de travailler avec les gens, puis ça, c'est très, très apprécié,
Tout
sincèrement.
à fait.
Ben, je vous souhaite,
Merci.
je trouve ça très, très stimulant comme activité, puis je suis certain que vous allez avoir une belle réponse, des gens. Alors, un bon déroulement, et puis espérons que tout ira pour le mieux, mais que ça ne sera pas parfait, de façon à ce que vous puissiez améliorer le tout encore.
Bien, je vous remercie beaucoup. Je suis persuadée que l'exercice sera une réussite, non seulement en raison du partenariat extraordinaire de tout le monde de l'île et de l'extérieur de l'île, mais également en raison du travail extraordinaire que nos préposés d'aéroport effectuent à l'année longue, parce qu'il faut savoir que l'aéroport de Portmeunier est un aéroport qui est très achalandé avec une capacité de portance pour la piste avec de gros appareils. S'il arrivait une catastrophe, les gens seraient vraiment dans une urgence assez pointue. Et je salue mes collègues de travail et tous les précieux partenaires avec lesquels j'ai le bonheur et le privilège de travailler.
Nous recevions aujourd'hui Mme Caroline Gagné du ministère du Transport du Québec et de la Mobilité durable. L'événement dont on parle a lieu à l'aéroport de Port-Meunier de 9h à midi jeudi. On demande aux bénévoles d'arriver vers 8h, histoire de recevoir des instructions et d'être préparés. Il y aura les paramédics, il y aura les premiers répondants, il y aura le service des incendies sur place, évidemment. Et on prend autant de bénévoles pour jouer des rôles que possible. Si vous voulez y participer, vous communiquez avec Joshua Joubert à l'aéroport. Joshua Joubert. Mais au téléphone, je pense que tout le monde le connaît dans l'île. 535-0327. Sinon, Joshua Joubert à l'aéroport. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.